Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, cinquième de la saison, première partie. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour David Granel.
Bonjour.
Vous êtes, un des membres des mouvements citoyens de la Narbonnaise. Nous allons revenir plus longuement là-dessus. Vous étiez dans Nous Citoyens il y a quelque temps et je crois que vous êtes en train de changer d'étiquette pour passer à Génération Citoyen, c'est bien ça ?
Voilà, Génération Citoyen qui est une évolution de Nous Citoyens par rapport à des problèmes internes de Nous Citoyens, mais la philosophie reste la même.
Bon, vous nous expliquerez tout ça en détail dans une troisième partie. Je rappelle quand même, David Granel, que si vous souhaitez à un moment mettre votre patte dans les sujets que nous traitons avec Michel Santo, ça fait partie aussi de la règle de l'émission et vous êtes le bienvenu.
Je vous en remercie.
Le sommaire de cette émission, Michel, nous reviendrons sur ce qui est devenu un petit peu comme la Sorel Story, un feuilleton. Ça, c'est la SNN Story, oui. À savoir la saga de la société narbonnaise de la nautique. Après quoi, nous dirons un petit mot d'une pétition pour sauver le Vox. Apparemment, certains se réveillent, il faudrait sauver le soldat Vox à Narbonne. Bon, on verra.
Ouais.
Et puis un petit mot quand même aussi intéressant au niveau national sur l'évolution et les progrès accomplis en matière de dialogue social en France et notamment à Air France.
Ouais.
Dans une deuxième partie, nous reviendrons, là encore, c'est presque une saga maintenant, sur ces lignes TGV qui sortent du chapeau un petit peu partout.
Surtout en campagne électorale.
Surtout en campagne électorale, oui, c'est quand même le chapeau de la campagne électorale.
Oui.
Et puis nous conclurons sur ton analyse sur la fiscalité en hausse à l'agglo, au Grand Narbonne, à l'agglomération du Grand Narbonne.
Mmh, oui.
Tu as fait d'ailleurs un billet pendant la semaine sur le sujet.
Oui, qui a été très lu d'ailleurs.
Mmh. Alors Michel, revenons sur la SNN, la Société Narbonnaise de la Nautique, qui n'a toujours pas résolu ses problèmes de fonds.
Non. Je rappelle à nos auditeurs que la nouvelle Société Nautique Narbonnaise de Narbonne, qui est présidée par Robert Desjans, après que Robert Desjans ait gagné aux élections contre son prédécesseur Jacques Hurley.
Exact.
Donc depuis le début de cette nouvelle installation présidentielle, la SNN ne cesse d'obtenir de deux réalisations plutôt faites par son prédécesseur pour tout simplement obtenir qu'elles soient purement et simplement annulées, voire dégagées de l'espace. Il s'agit de À tout bout de champ, qui est une association qui est dans le domaine de la culture, qui a aménagé un hangar qui était en voie de tout simplement de décrépitude, pour y organiser des soirées chantantes et dansantes. Et puis le deuxième dossier qui perturbe la Société Nautique Narbonnaise est le pavillon, c'est-à-dire le restaurant de la nautique, dont la nouvelle direction conteste la légalité, l'opportunité même de sa réalisation. Alors, on va laisser de côté pour le moment le pavillon, on va s'intéresser à tout bout de champ, qui a bien conscience du fait qu'elle doit quitter les lieux, mais qui propose tout simplement de terminer la saison pour, le moment venu, à la fin de la saison, rendre les clés et donc dégager les locaux afin de permettre à la Société Nautique Narbonnaise de les raser tout simplement, puisqu'il paraît qu'ils sont dans un état de vétusté très avancé. Ce qui est faux, d'après le président de l'association à Toubou de Champ, qui a tout refait et qui a fait faire une expertise, ce qui démontre qu'effectivement il n'y a pas danger pour autrui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président de cette association, M. Dunge, a saisi un conciliateur de justice qui a tout fait pour aboutir à un accord et qui n'a toujours pas compris, d'ailleurs, ce conciliateur de justice, pourquoi la Société Nautique Narbonnaise refusait de décaler de quelques mois seulement le départ d'un tout bout de champ. Et ce conciliateur a été obligé de constater qu'il n'y a pas de conciliation et donc que l'affaire était close pour lui. Et M. Robert Desjans, le président, qui commence visiblement à en avoir assez de ce genre de situation, a dit clairement que maintenant, il ne tenait plus la baguette de cette affaire et qu'il avait passé la baguette en question au concédant,
c'est-à-dire la mairie,
c'est-à-dire à Didier Mouly. Alors la question que tout le monde se pose maintenant est de savoir si Didier Mouly va hisser un drapeau rouge ou un drapeau blanc. D'après sa dernière intervention, très ambiguë, mais comme souvent d'ailleurs quand il intervient ou que la presse rapporte ses propos, il semblerait qu'il reste ferme sur ses positions, à savoir qu'il souhaiterait qu'effectivement les gens d'un tout bout des champs dégagent des lieux. Il précise cependant pas dans quelles conditions ni dans quel terme. Le plus vite possible,
oui,
dit-il.
Oui, mais enfin, il ne semble pas vouloir tolérer un arrangement. Ça,
non.
C'est clair.
Voilà. Donc, alors, ça devient totalement incompréhensible. Et en tout cas, pour moi, je vois surtout, c'est un règlement de compte personnel qui n'a pas lieu d'être, quoi. Quand on est dans les responsabilités, on devrait, me semble-t-il, traiter les manières de la plus rationnelle possible, en essayant, bon, pour chacune des parties, de sortir par le haut, en fait, hein, de manière honorable, d'une situation dont tout le monde veut sortir. Reste que quelques mois, en fait, hein, à régler, en fait, et ces quelques mois, semble-t-il, posent un énorme problème psychologique et politique à Didier Mouly et à Monsieur Robert Desjean.
Alors, ce qui concerne Robert Desjean, je rappelle que je l'avais invité à venir à ce micro, je me suis entretenu récemment avec lui. Il acceptera peut-être une invitation à ce même micro quand certaines choses se seront décantées. Mais comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, je crois qu'il est un peu fatigué aussi de subir peut-être certaines pressions.
Oui, c'est mon sentiment, et ça prend un côté un peu bouffon. J'allais dire, c'est pas une saga, un feuilleton, c'est carrément un opéra bouffe maintenant qu'on assiste. Un peu, voilà, pas de haut niveau quand même, quoi, c'est pas Offenbach.
C'est de la politique spectacle, mais d'un certain type de spectacle.
Oui, d'un certain niveau. Hein.
Bon. Une pétition pour le Vox. Alors tout d'un coup, Vox Populi, presque Vox Dei.
Oui, je n'ai rien compris, sinon que c'est une affaire qui est partie des réseaux sociaux, de Facebook, lancée par je ne sais qui, en fait, hein, et qui relance une affaire, mais qui est close depuis des mois, enfin des années.
Ah oui,
le permis de construire a été accordé, la démolition va avoir lieu, en fait, ou a commencé, je n'en sais rien. Donc l'affaire est close. Alors je ne sais pas qui a lancé cette pétition et dans quel but, mais elle est à la fois absurde sur le fond, et totalement décalé sur la forme. Alors moi, dans cette affaire, ce qui me surprend surtout, c'est la manière dont la presse écrite, pas la nôtre, la presse écrite, rapporte ce genre d'informations.
Oui, parce que ça a l'air d'être pris au sérieux.
Oui, c'est pris au sérieux, alors que c'est, là aussi, c'est assez bouffonnesque comme initiative. Hein, vraiment, ça tombe à l'eau, enfin, ça n'a aucun sens. Il me semble quand même que le rôle de la presse dans ce genre de situation, c'est de contextualiser ce genre d'événement, entre guillemets, qui fuite sur les réseaux sociaux, et de le mettre en perspective, et expliquer, par exemple, que cela, bon, n'a aucun sens. Aucun sens à la fois politique, aucun sens programmatique. S'il y avait encore un enjeu architectural, patrimonial,
mais enfin, quand oui, même, là, on s'en serait aperçu depuis quelque temps.
On aurait dû s'en apercevoir il y a 10 ans de cela, en fait. Hein, et puis classer cette espèce de cube qui n'a aucun intérêt d'un point de vue patrimonial
et qui est dévasté à l'intérieur. Chacun le sait.
Qui a été squatté, qui est dévasté, qui ne ressemble à plus rien. Quoi. C'est un dépotoir maintenant, le Vox. Oui. Donc voilà, une autre polémique inutile et qui nous permet de mettre en perspective un certain nombre de positionnement, celui de la presse, celui des uns et des autres, dans ce genre de situation. Que la presse fasse son boulot, qu'elle contextualise ce genre d'événement.
Dernier petit point sur cette première partie, Michel. Alors là, on passe au niveau national. Depuis longtemps, les gouvernements successifs prétendent améliorer, je cite, le dialogue social. Alors là, on a eu cette semaine un exemple magnifique de l'amélioration du dialogue social à Air France.
Oui, et puis alors, quand j'ai vu cette image, mais qui a fait le tour du monde, hein, tous les grands journaux...
Et qui aura été interprétée par ceux que cela
de
arrange.
De la planète, tous les journaux de la planète ont présenté cette photo, avec quelques commentaires évidemment dessous, mais très pas très important. C'est la photo qui est importée, du point de vue des médias, du monde entier. Parce que bon, la photo, elle signifie beaucoup de choses.
Bien
là
sûr,
aussi, hors contexte. Hein. C'est la France violente, c'est la France qui a des syndicats qui ne négocient pas, qui ne veulent pas négocier, qui sont dans la violence permanente. C'est l'impossibilité de dialoguer en fait, au plan social quand des situations économiques graves sont posées hein, dans une entreprise hein, et nécessitent une restructuration importante. Enfin bref. Tous les clichés, mais tous les clichés et une partie de la réalité de notre manière de fonctionner au plan social, dans les relations entre les chefs d'entreprise et les syndicats, se trouve bon, au premier rang de la presse internationale, avec des dégâts considérables. Alors du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pensé effectivement à tous mes anciens collègues de la DATAR, de la délégation à l'aménagement du territoire, hein, avec qui j'ai travaillé quand j'étais à l'époque au ministère de l'Industrie, et qui passent leur temps, hein, qui passent du temps, qui consomment de l'énergie dans les différents postes d'expansion économique de nos ambassades pour vendre en fait la France auprès des investisseurs, et qui tout d'un coup voit pratiquement 10 ans d'efforts, hein, consacrés pour vendre la capacité d'accueillir des investissements en France, qui soient bon, tous leurs efforts, toute leur énergie annihilée par une simple image qui a été envoyée dans toutes les rédactions du monde. Là aussi, quand même, ça montre que le rôle de l'information et des médias, hein, est important, et que la moindre petite image, là aussi, hors contexte, hein, hors contexte, peut produire des ravages.
Un effet dévastateur, des ravages, c'est ce qui s'est passé.
L'effet dévastateur. Ça se passe dans tous les domaines et sur tous les plans. On sait ce qu'a produit comme réaction l'image de cet enfant échoué sur une plage de Turquie.
Oui, c'est encore un autre problème.
On sait ce qu'a produit certaines images de Charlie Hebdo dans le monde entier.
Il y a une utilisation.
Toutes les leçons, en fait, de ces événements liés, en fait, à ces deux dernières images n'ont pas été tirées. Et l'on voit, effectivement, encore une fois, comment, à travers une photo, en fait, une image, on peut, effectivement,
produire des effets
dévastateurs dans tous les domaines.
On marque une première pause sur ce Radio Barque.